Mon voyage aventureux en Russie communiste, deuxième partie. Nous faisons encore environ 2 kilomètres, et voilà qu'on nous fait entrer dans une maison qui, dans l'obscurité, m'apparaît sordide. Une femme arrive en chemise, elle semble s'opposer vivement à notre intrusion. Je crois d'abord qu'on veut seulement nous faire reposer quelques instants de notre marche exténuante. Mais un des guides me dit en allemand que nous devons rester là un temps indéterminé. 2 jours, 3 jours ou plus, on ne sait pas. Nous entrons tous trois dans une violente colère. Nous avons changé plusieurs fois de guide cette nuit. Qui sait si nous ne sommes pas tombés entre les mains de voleurs qui veulent nous rançonner? La femme s'approche de moi et tente de me calmer par des caresses. Je la repousse violemment. Les guides sont partis. La femme a allumé une bougie et étendu un matelas dans la pièce voisine. Les deux Italiens vont s'y étendre et, vaincus par la fatigue, ils dorment tout de suite. Elle m'invite à partager son lit. Les draps sont affreusement sales. Je refuse avec indignation. D'ailleurs, j'étouffe dans cette pièce où l'odeur est infecte. Je remarque qu'il y a 2 affreux grabats à fond de planche. 4 enfants dorment là, tout habillés. Je vais dans la pièce où dorment les hommes et m'assois près de la fenêtre que j'ai ouverte. De notre situation, je ne m'en fais pas la moindre idée. Pourquoi faut-il rester là? Sommes-nous toujours aux mains des camarades? Ne nous a-t-on pas abandonnés tout simplement pour se débarrasser de nous? Autant de questions que je ne résous pas. La femme me regarde méchamment. Elle semble très fâchée contre moi. Mais je suis prise d'un hoquet nerveux qui ne cesse pas. Je n'en suis pas effrayée, car j'ai eu bien des fois de pareilles crises. Mais la femme qui ne connaît pas cette maladie prend peur. Elle m'apporte, en silence, un œuf, une tasse de thé et un sucrier. Ce dernier objet attire mon attention. C'est un verre à couvercle, comme il y en a en Allemagne dans les brasseries. J'examine le couvercle, il est en argent et porte une couronne royale avec 2 initiales entrelacées. Le verre d'un roi. Voilà le jour. Les Italiens se réveillent et nous délibérons sur notre situation. Où sommes-nous? Nous n'en avons pas la moindre idée. Il apparaît que nous ne sommes pas chez des voleurs. On ne nous veut pas de mal. Mais qui est cette femme? Pourquoi nous laisse-t-on dans cette maison au lieu de nous faire continuer notre chemin puisque la frontière est passée? Nous avons l'impression d'une organisation très mauvaise. Le fil parti de Berlin est coupé. Nous sommes abandonnés dans un pays perdu. Mes camarades se désespèrent, surtout l'ex-dictateur, beaucoup plus nerveux que son ami. Vers midi, la femme nous sert un repas assez bon, mais nous n'avons guère d'appétit. La maison est en bois. Elle est composée de 3 pièces. Celle dans laquelle on pénètre d'abord sert de cuisine. Elle est meublée d'un fourneau tout délabré. De cette cuisine, on pénètre dans la chambre à coucher, fermée seulement par un rideau très sale. Enfin, une porte donne dans la plus grande des 3 chambres, celle où nous nous tenons. 2 petites fenêtres à carreaux bleu-blanc-rouge éclairent la pièce. L'une donne sur la route, qui est en très mauvais état. Elle est couverte d'au moins 1 pied de boue. Au travers des carreaux, nous apercevons 2 autres maisons semblables à la nôtre, avec les mêmes 2 petites fenêtres à carreaux multicolores. Nous avons l'impression d'être très loin. Un de mes camarades dit qu'il a vu une fois au cinéma ce paysage. La pièce où nous sommes est pauvrement meublée, comme toute la maison. Une vieille armoire de bois peint, une table toute cassée, reléguée dans un coin et remplie de vêtements jetés en tas. Une autre table où nous mangeons, quelques chaises, une machine à coudre. La femme a travaillé dans la matinée à cette machine. Elle est couturière. Dans l'après-midi, 2 hommes, assez bien habillés, pénètrent auprès de nous. L'un porte sous le bras une serviette de diplomate. Il ne sait pas un mot de français. L'autre sait le français à peu près comme je sais l'allemand, c'est-à-dire très mal. Ces hommes me font subir un examen politique qui me déconcerte absolument. Comment? Mais n'ai-je pas été admise à Berlin? Si on n'a pas confiance en moi, pourquoi m'avoir fait venir jusqu'ici? Le diplomate me transperce de son œil noir, et dans mon impuissance à m'expliquer, à cause de mon ignorance de l'allemand, je perds absolument la tête. J'oublie le nom de la ville où je dois prendre le train pour la Russie. « Pourquoi ? » me dit-il d'un ton agressif. « Voulez-vous aller en Russie ?»« Mais parce que je suis communiste et désire assister à la réalisation de mes idées. » Le diplomate semble ne pas comprendre. Il ricane méchamment. Je tire de mon soulier une recommandation en russe que je conservais pour la Russie. À peine s'il daigne la prendre. Enfin, sur mon insistance, il la lit et me déclare qu'elle ne vaut rien parce qu'il manque un cachet. La maîtresse de la maison est intervenue dans le débat. Elle fait contre moi un réquisitoire terrible. Comme chef d'accusation, j'ai dédaigné son lit. J'ai dit que la maison était sale. Je n'ai presque pas mangé. Conclusion, je suis une bourgeoise. Cela prêterait au ridicule si ce n'était odieux. J'ai abandonné tout amour-propre et je me laisse aller à dire « Quelle situation terrible !»« Pas si terrible, » dit celui des deux hommes qui parle un peu ma langue. « Il y a eu ici le front français. Des blessés, des morts, leur situation était plus terrible que la vôtre. » « Le front français ? En quoi peut-on m'imputer les excès de la guerre, moi qui toute ma vie l'ai combattu ? » Les deux Italiens sont interrogés à leur tour. La femme est pour eux pleine de bienveillance. Ils ont mangé, ils ont dormi. Évidemment, ce sont de bons camarades. La sentence est rendue. Les deux Italiens iront en Russie, et moi, je n'irai pas. On m'apportera demain un passeport pour la France. Je bouillonne de rage impuissante. Ainsi, je n'irai pas en Russie parce que j'ai refusé de coucher dans un lit infect. Cette femme ignorante et fruste décide du sort des camarades. Ses avis puérils et vulgaires sont écoutés avec respect. Qui croira à Paris cette histoire lorsque je la raconterai? La nuit arrive. La femme prépare un matelas pour les deux Italiens. Pour moi, elle avance une chaise de bois qu'elle frappe violemment contre le sol et me dit « Voilà !» Je frissonne en pensant à la nuit d'insomnie. La quatrième, décidément, je laisserai ma vie dans ce voyage. Le lendemain, personne ne vient m'apporter le passeport promis. S'est-on ravisé? Ce diplomate doit avoir des chefs peut-être plus éclairés que lui. Ont-ils compris qu'on ne peut pas refuser une militante pour des motifs aussi ridicules? À tous égards, je comprends qu'il me faut sacrifier mon amour-propre et faire la paix avec cette femme. Quelle faute avais-je commise aussi, grand Dieu ! Cette femme, c'est la sœur d'un commissaire à la guerre. Elle a des qualités que je ne tarde pas à reconnaître. Elle est dévouée au parti et risque gros en nous donnant asile. Son mari a été tué à la guerre, elle a 4 enfants, qu'elle parvient à grand-peine à nourrir. Comme je lui demande pourquoi son frère, qui a une place si importante en Russie, ne l'aide pas, elle me répond qu'il ne gagne pas d'argent, qu'un communiste ne doit pas en gagner. C'est elle, au contraire, qui lui envoie du chocolat. C'est très beau. Cette femme est une héroïne obscure, comme j'en trouverai beaucoup en Russie. Mais quelle dureté dans son œil gris! Elle me fait frissonner lorsqu'elle chante « Mort aux bourgeois ». Je pense à Madame Defarge, la tricoteuse du roman de Dickens, un drame sous la Révolution. Je comprends que je ne suis qu'une révolutionnaire théorique et qu'il faut de ces êtres frustes pour les dures nécessités. De temps en autre, il lui échappe des paroles énigmatiques. C'est ici la maison de la mort. Ou bien, les communistes, on les tue. Je ne m'y arrête pas. Sans doute fait-elle allusion à des événements révolutionnaires récents. La journée est mortellement lente. Le dictateur évoque son passé. non les heures de son pouvoir éphémère, mais le temps plus paisible où il s'instruisait dans les universités populaires d'Italie. Il se rappelle avec attendrissement le professeur qui s'était intéressé à lui et auquel il doit le peu de français qu'il sait. « Ah ! Fait-il, si j'avais continué dans cette voie, je ne serais pas ici. » J'essaie de lui faire reprendre courage en lui disant que si la vie de militant comporte parfois des dangers, elle est une source d'émotion que l'on ne trouve qu'en elle. L'autre Italien, lui, ne s'en fait pas. Il a fait la guerre à Tripoli et en Autriche. Il en a vu de toutes les couleurs et a appris à prendre le temps comme il vient. Il trompe son ennui en apprenant aux enfants des tours d'escamotage. Voilà la troisième nuit. La femme me prépare un lit en rapprochant des chaises de bois. Elle dispose dessus deux oreillers. Pour couverture, j'aurai son manteau d'hiver. Je suis effroyablement mal, mais ma fatigue est telle que je parviens à dormir là quelques heures. Le lendemain, vers le soir, on signale une descente de police. Je vois les enfants se précipiter à travers la maison, ils fouillent l'armoire, grimpent sur la table pour atteindre une planche élevée, bouleversent les placards. Ils cherchent les papiers politiques. En moins d'un quart d'heure, tout ce qu'il y avait de compromettant est brûlé dans le poêle de la cuisine. « Voilà, dis-je à la mère, de bons petits conspirateurs. Ne disent-ils jamais aux autres enfants que vous cachez des camarades ?»«
Jamais !»
Et le plus jeune des enfants, une petite fille, n'a que 6 ans. La police ne vient pas ce jour-là. Jusqu'ici, la perspective d'être arrêtée ne m'effraie pas. Que peut-on me faire? Me reconduire en France? Or, puisque je ne suis pas sûre d'aller en Russie, j'aimerais autant, ma foi, être arrêtée. Je le dis à la femme. Retourner en France, vous croyez cela? Répond-elle. Pour avoir le droit d'exister dans ce pays, il faut un passeport spécial. Du moment que vous ne l'avez pas, c'est que vous avez passé la frontière illégalement. Si vous êtes passé illégalement, c'est que vous êtes communiste, et les communistes, on les fusille, sans jugement. » Et pour que je comprenne bien, elle appuie ses paroles d'un geste qui ne permet pas l'équivoque. Un froid glacial me saisit tout entière. Mes compagnons sont dans la cuisine et n'ont pas entendu. Leur dire, à quoi bon? Leur terreur ne ferait qu'augmenter la mienne. 3 jours passent. La police ne vient pas. Le 4e jour, un camarade entre en coup de vent. Il nous annonce comme imminente l'arrivée des policiers et nous fourre à la hâte dans la chambre à coucher. Je suis assise près de la fenêtre et je vois un agent en uniforme qui s'approche de la maison. Le camarade se joint à nous. La femme va ouvrir. Minute d'angoisse. Je tiens à la main 200 marks pour essayer de corrompre l'homme. Je l'entends qui parle avec la femme dans la cuisine, puis tous deux passent dans la grande chambre. On entend le bruit de leur voix pendant 10 grandes minutes. Enfin, l'homme quitte la maison. Il n'a pas eu l'idée de regarder dans la chambre à coucher qui n'est pas fermée. Sauvé ! Est-ce possible ? Mais il faut fuir immédiatement. On me jette un châle sur la tête et on m'entraîne à 100 mètres dans une autre maison. Les Italiens sont emmenés ailleurs. La maison est plus petite que celle que je viens de quitter. Elle n'a que 2 pièces. La cuisine, où la famille se tient pendant le jour, et la chambre à coucher, meublé de lits de fer, sans drap, d'un buffet et d'une table de bois blanc grossièrement fabriquée. Le mari est charpentier, il les a fait lui-même. Le buffet n'est pas adossé au mur, il y a une penderie par derrière. C'est là que je me cacherai si on vient. Dans un angle de la pièce, un énorme morceau de lard, tout en graisse, pend du plafond. Je suis loin d'être rassurée. Je pense que la police n'aura pas de peine à me trouver, pour peu qu'elle le veuille. Et les paroles de ma dernière hôtesse me reviennent. Fusillé, sans jugement. Cela me paraît absurde, car enfin, si je suis bolcheviste, mon ignorance de la langue me rend tout à fait inoffensive. D'ailleurs, d'après les conventions bourgeoises, je n'appartiens pas aux gens d'ici. Je suis française, et on n'a pas autre chose à faire qu'à me rendre à la France, qui s'arrangera de moi. Oui, mais je sais aussi combien la guerre a bouleversé toutes les conventions. Aujourd'hui, la bourgeoisie a fait litière des principes démocratiques. La liberté de penser a cessé d'exister. Il n'y a plus sur la terre entière que le duel formidable des deux classes, la bourgeoisie et le prolétariat. Et je suis sur le terrain de la bataille. Les États tampons, c'est l'Europe, qui les a créés pour séparer la Russie bolcheviste des nations capitalistes. Qui sait? Peut-être qu'il n'y a plus de loi ici et que tout est permis contre les communistes, quel que soit leur pays. C'est là qu'on a placé les fameux fils de fer barbelés de Clémenceau, et dans ces fils, je suis prise. Derrière la table, il y a une grande glace. Je m'y regarde avec terreur. Du plomb fera de ma tête une bouillie. La cervelle jaillira. Pourquoi? Qu'ai-je fait de criminel? Je vais voir la Russie. Est-ce que cela mérite la mort? Je repasse ma vie de travail constant pour l'acquisition de la culture intellectuelle que je possède. Et ce sont des soldats, pour la plupart des brutes alcooliques, qui me tueront. Je vois en esprit le poteau d'exécution et j'éprouve la sensation affreuse que doit avoir l'animal pris au piège, avec en plus, hélas, l'imagination de l'homme. Dans mon chapeau, dans mes vêtements, dans mes souliers, j'ai des lettres de recommandation pour la Russie. Je brûle tout. « Si vous n'avez aucun papier sur vous, » m'a dit Madame Defarge, « vous pouvez encore avoir la chance de vous en tirer. » Mais si vous portez le moindre document politique, vous êtes perdu. On a fusillé un jeune homme de 16 ans parce qu'on a trouvé dans sa poche un journal bolchevique. Que faire? Il faut cependant essayer de sortir de cette situation. Et pour cela, je dois, avant tout, compter sur moi-même. J'écris une 10aine de lettres à mes amis de Paris. Si je ne suis pas arrêté, peut-être m'accusera-t-on ensuite d'avoir eu peur. Mais si je suis arrêtée, les démarches qu'on aura faites empêcheront qu'on me traite sans ménagement, quitte à faire ensuite des excuses pour la méprise. Évidemment, tant que je ne suis pas arrêtée, je ne risque rien. Mais qui sait si une fois en prison on me permettra d'écrire? Le pays où on fusille un homme pour un journal ne me paraît pas très civilisé. J'essaie de confier mes lettres à mon hôte. Il me dit qu'il n'a pas le temps de les porter. Il me cache cependant cet homme. Peut-être le paie-t-on pour cela? Mais enfin, payé ou non, il risque. C'est la race, je le vois, qu'il faut accuser. Partout les mêmes visages blancs, les mêmes cheveux blonds clairs et les mêmes yeux gris, effroyablement durs, et je comprends qu'ici, la vie humaine n'a aucune importance. Tout de même, Madame Defarge pense à moi. Elle m'envoie l'aîné de ses enfants, une fillette de 14 ans aux magnifiques cheveux dorés. C'est elle qui portera les lettres, et pour plus de sûreté, elle ira les mettre en Allemagne. Elle a un passeport qui lui donne le libre accès de la frontière. Elle cache les lettres dans sa poitrine, la petite conspiratrice, pour que personne ne se doute de rien. J'ai cessé de faire la difficile. J'accepte de coucher sans drap sur des coussins infects. Heureusement, mon lit est près de la fenêtre. La nuit, je me lève furtivement pour ouvrir, car l'air est irrespirable. Me voilà en prison chez ces paysans. Impossible de quitter cette chambre, même pour aller aux commodités qui sont dans la cour. On me verrait. Pour les besoins naturels, on me donne un vase de nuit. L'odeur devient infecte. Et cette nouvelle prison ne vaut pas l'autre. Avec Madame Defarge, je pouvais baragouiner un peu d'allemand. Ce n'était qu'une couturière de village, mais il y avait en elle le reflet du commissaire de Moscou. On pouvait échanger quelques idées. Ici, rien. Le mari ne rentre que le soir pour manger et dormir. Impossible de parler avec la femme. D'ailleurs, elle ne sait que le laiton, dont j'ignore le premier mot. Je suis modeste en disant que je ne sais pas un mot de letton. J'ai fini par en apprendre un. Kallis. La femme dit toute la journée ce mot pour apaiser les cris de son dernier-né qui a 15 jours. On m'a dit plus tard que Kallis voulait dire « qu'est-ce que c'est ?» Mon hôtesse ne fait aucun ménage et la chambre devient d'une malpropreté telle que je finis, malgré ses protestations, par balayer, ce qui est pour moi un plaisir dans mon désœuvrement. Lorsque le mari rentre, elle coupe une tranche du morceau de graisse qui pend du plafond et elle le lui donne à manger avec un morceau de pain noir. C'est là le dîner. Je suis un peu mieux traitée. À midi, pas toujours, car lorsque la femme part en course, on oublie de me faire manger. Je suis gratifiée de 2 œufs et d'un verre de thé. Quelquefois, à la place des 2 œufs, il y a un morceau de cochon salé à la laitoche, absolument immangeable pour mon pauvre estomac de parisienne. Pas un livre. Mon temps se passe à arpenter la pièce du matin au soir, comme un ours en cage. Je suis tellement déprimée que la satisfaction des nécessités de la nature est pour moi une distraction. Je désire la folie qui au moins me ferait oublier mon malheur. Mais la folie ne vient pas, en dépit du bromure que je prends à haute dose pour m'abrutir. Il y a des moments où je m'imagine subir les épreuves de quelque terrible sainte Vème. Ma situation est pire. Le danger, hélas, n'a rien d'imaginaire. Je n'ai pas encore pu savoir au juste pourquoi on me retient ici. Le salut, m'a-t-on dit, est à X, à 60 kilomètres. Que ne m'y conduit-on? S'il n'y a pas d'autre moyen, j'irai à pied, la nuit, le jour je me cacherai. On ne veut pas me laisser aller. Le pays est plein de policiers, me dit Madame Defarge, qui est venue me voir. Si vous mettez le pied dehors, vous serez arrêté infailliblement, et vous savez ce qui vous attend. Nous aussi, d'ailleurs, nous serions pris avec vous. De quoi vous plaignez-vous ici? Vous mangez, vous dormez, vous n'êtes pas mal. Prenez patience. On s'occupe de vous pour vous avoir un passeport. Vous partirez un jour ou l'autre. Un matin, la fillette de Madame Defarge m'apporte une boulette de papier de soie. Je dois, dit-elle, lire et brûler. Je déplie la feuille. Il y est dit en très mauvais français que j'irai en Russie et que je partirai dans 3 jours. Je n'ose me réjouir. J'ai été tant de fois trompée, mais tout de même, je reprends un peu courage. Je me dis que si je manque de livres, j'ai mon cerveau qui est un livre, en somme. Au lieu de m'hypnotiser sur ma situation, je vais écrire des articles. Les manuscrits se perdront, cela est plus que probable. Mais pendant que j'écrirai, le temps passera, et c'est le principal. Je m'attache, bien entendu, à ne traiter que des sujets étrangers à la politique. Si on m'arrête, ces études me serviront à prouver que je ne suis qu'un écrivain curieux de la Russie, et non une femme politique. Mais le jour annoncé passe sans rien m'apporter de nouveau. À travers le rideau de mousseline, toujours tiré, je vois au loin, dans les champs, les paysannes qui vont et viennent librement. Pourquoi n'ai-je pas comme elles la liberté? Et ma dépression morale est telle que pour avoir la liberté, je consentirais à être l'une de ces femmes. Le lendemain encore, rien et personne. Je prends une forte dose de bromure. Enfin, au bout de 3 jours, la petite fille revient, et à travers son allemand, je comprends que le camarade qui m'a porté le passeport sauveur a été arrêté. Le document est aux mains de la police. Toutes les démarches sont à recommencer. C'est le 14 août, veille de grandes fêtes. Des chants et des musiques m'arrivent du lointain. Les enfants de mon hôtesse font dans un tonneau. Un lavage sensationnel. Au soir, Madame Defarge et sa fillette viennent me voir et me proposent une petite promenade. Une promenade? Mais les policiers... Les policiers, ils dansent! C'est grande fête aujourd'hui. Délicieuse, cette promenade au clair de lune. Voilà 12 jours que je ne suis pas sortie. On m'a coiffée d'un mouchoir pour que je ressemble aux femmes du pays. Tout de même, nous nous sommes trop approchés du village. Un homme qui nous a croisés m'a regardée curieusement. Nous rentrons à travers champs. Au loin, une rangée de becs de gaz. C'est la voie ferrée. Madame Defarge étend le bras. De ce côté, l'Allemagne, et là-bas, la Russie. J'ai, je m'en aperçois, une certaine influence morale sur Madame Defarge. Je lui ai expliqué qu'on pouvait être communiste et aimer en même temps la vie. Évidemment, de rudes besognes sont parfois nécessaires, mais en attendant, pourquoi ne pas sourire aux fleurs, aux bêtes, aux enfants, à tout ce qui est aimable? Le bourreau lui-même, entre deux exécutions, a un temps de répit. Et maintenant, Madame Defarge prend goût à nettoyer sa maison, et elle a adopté un petit chat abandonné auquel elle donne du lait. La fillette me raconte tout cela. Elle n'en revient pas. « C'est vous la cause » fait-elle. Il a été question de me mêler à un convoi d'émigrants qui viennent d'Allemagne et vont en Russie. Ils sont dispensés du passeport. Mais on a trouvé ce moyen dangereux. Ces gens verraient tout de suite que je ne suis pas russe, et comme ils ne sont pas communistes, ils s'empresseraient de me dénoncer aux policiers du train. Vais-je donc rester éternellement ici? J'ai proposé plusieurs moyens d'évasion, pensant que, puisque les camarades me paraissaient assez pauvres d'imagination, il me fallait en avoir pour eux. Ne pourrait-on pas, avais-je dit, me mettre dans une voiture de paysan sous de la paille? Non, ce serait suspect, on regarderait dans la paille. Mais la nuit, les voitures n'ont pas le droit de circuler la nuit. Une après-midi, enfin, un camarade que j'ai déjà vu m'annonce que je prendrai le train le lendemain matin. Mais le passeport? Pas besoin. En disant cela, il tremble de tous ses membres. Je comprends que le moyen est dangereux, car cet homme a l'habitude de passer des camarades illégaux. S'il a peur, c'est qu'il y a un grand danger. On diminuerait ce danger en faisant un peu de route à pied vers X. Il y a bien des chances pour que la deuxième station soit moins surveillée que la station frontière. « Oui, me dit le camarade, mais il y a 20 kilomètres. »« Je les ferai. » »« Alors partons cette nuit. » Nous voilà dans les champs, tous les trois. La petite fille de Madame Defarge vient nous conduire un bout de chemin. Que n'a-t-on adopté plutôt ce moyen? J'avais proposé plusieurs fois de faire toute la route la nuit en 3 étapes. On a toujours refusé. Je me sens presque en sécurité dans ce sentier au milieu des prairies. Qui sait que je suis là? Qui viendra m'y chercher? Ah, si j'avais été seule, je serais à X depuis longtemps. Au bout de 2 kilomètres, on amène les 2 Italiens. Nous disons adieu à la petite fille. « Repassez par chez nous au retour et emmenez-moi à Paris, » dit-elle. Je le lui avais promis. Mais au retour, mes dispositions ne seront plus les mêmes. D'ailleurs, qui sait ce que deviendrait cette petite fille, belle comme mignon, qui marche nu-pieds, mais n'en a pas moins toutes les convoitises. Comme elle s'accrochait à tous mes bibelots de voyageuse, ma bouteille d'eau de Cologne, mon peigne, mes bas en soie artificielle. Paris est plein de pièges pour les jeunes filles qui rêvent de belles robes. Au milieu de la nuit, nous faisons halte dans un village. Notre guide nous a d'abord laissés à 500 mètres de la dernière maison et il est allé éclairer la route. Il revient, nous le suivons à pas de loup. La lune jette sur les chaumières de bois une lumière tragique. Il y a une rivière que l'on franchit sur une passerelle avec d'infinies précautions. Nous nous coulons dans l'isba. Pas de meubles, le sol est en terre battue. Une femme s'est levée et a allumé une chandelle. Elle nous demande si nous voulons manger. Je voudrais du thé, elle n'en a pas. Mais elle a du lait, du pain et du beurre. On nous apporte tout cela. Je suis un peu dégoûtée du service, mais les produits sont excellents et ce n'est pas le moment de faire la mijaurée. On nous a fait passer dans la seconde pièce, et j'ai la faveur du lit de fer pour me reposer 2 heures. Au-dessous de moi, accrochés au mur, les portraits de Lénine, Trotsky, Liebknecht, Rosa Luxembourg, resplendissant dans leur cadre noir. Vrai bijou au milieu de cet intérieur sordide. Mais il faut se remettre en marche. J'avais trop présumé de mes forces. Mes 2 semaines de claustration et d'émotion m'ont beaucoup affaibli. Je suis très fatiguée. Mais il faut marcher, il n'y a pas. Le jour commence à poindre, comme il vient tôt. C'est que je ne la désire pas, cette aurore que j'appelais autrefois durant les longues nuits de maladie. Maintenant, c'est la nuit que j'aime. La nuit bien noire pour me dérober à la méchanceté des hommes. Mais quelque chose brille à mes pieds. Qu'est-ce donc? Hein? Un fer à cheval. D'ordinaire, je ne suis pas superstitieuse. Je vis dans le présent et ne prends pas grand souci des malheurs à venir. Mais je suis tellement déprimée en ce moment que je vois dans cet objet un gage de salut. Je le ramasse. Nous arrivons 1 heure trop tôt à la petite gare. Dans un coin de la salle d'attente, très vaste pièce meublée de quelques bancs de bois, est un mobilier en déménagement. Une jeune femme est là, qui donne ses soins à un enfant malade, couché sur un lit tout installé. À terre, traînent des casseroles, la lampe, le moulin à café. Que fait là cette femme? Je n'ai pas le loisir de l'approfondir. Pas d'incident dans le train, mais à X, c'est une cohue pour sortir de la gare. Et voilà qu'on crie « Les passeports !» Il faut payer d'audace, ou je suis perdue. Pendant que les gens montrent leurs papiers, je me faufile derrière eux, comme j'ai fait à la frontière franco-suisse. Mais il faut passer au milieu des soldats qui font la haie. Je prends un air fatigué et je vais. Je m'attends à chaque seconde à ce qu'une main se pose sur mon épaule. Mais rien. Il y a 2 marches, je les descends. Je suis dans la rue. Je vois le guide et les camarades passer devant moi. Je les suis comme je puis, car mes jambes sont raides et le pavé pointu rend la marche difficile. Je rassemble mes forces, car il ne faut pas perdre mes compagnons. Mais je vois un drapeau rouge flotter au premier étage d'une maison. Ce doit être la mission russe. C'est là, en effet. Je vois les camarades y entrer. J'y pénètre à mon tour. Sauvé ! La mission russe jouit de l'exterritorialité. Plus d'arrestations, plus de fusillades. Une délicieuse impression de détente nerveuse me pénètre tout entière. Enfin, c'est fini de trembler. Nous sommes dans une grande salle ornée de rideaux en papier rouge. Les murs sont couverts d'affiches illustrées qui rappellent des phases de la Révolution russe. Sur l'une, un navire brisé que quitte un amiral qui a perdu toute sa morgue d'antan. Son uniforme est déchiré, ses souliers percés, il est affaissé sur lui-même, comme un vieillard. Les matelots qui tremblaient devant lui autrefois le hu. C'est le peuple russe qui a mis la bourgeoisie à genoux. En plusieurs langues, la devise du parti. Prolétaires de tous les pays, unissez-vous. La devise est même en jargon juif. Ici, le jargon des Israélites a l'importance d'une langue européenne. Des non-juifs le parlent, et dans les rues, les affiches sont écrites en 3 langues, le russe, le letton et le jargon. On nous fait monter au 2e étage, et nous pénétrons dans une sorte de chambrée de caserne. Une 10aine de lits de fer sont alignés contre un mur. Il y a aussi des lits dans la pièce voisine, et jusque sur le palier. Quelques personnes sont déjà là, des jeunes gens, un ménage et une très jeune femme. Une inscription en russe est clouée au mur. Sans entente, pas de communisme. Dans l'après-midi, le maître du lieu vient nous voir. Il est vêtu d'une sorte d'uniforme militaire bleu foncé et porte de hautes bottes en cuir noir. Sur sa poitrine est attachée une médaille de bronze à l'effigie de Karl Marx, l'insigne de sa fonction. Il ne parle que le russe et l'anglais. Les Italiens lui racontent avec force gestes les événements de leur pays. Je sais un peu l'anglais, il se retourne vers moi et me dit d'un air sévère « Et la France, qu'a-t-elle fait ?» Je réponds que la France, évidemment, s'est montrée moins avancée que l'Italie en révolution. Je n'essaie pas de l'excuser, ce n'est pas dans mes principes. « Caput, la France !» fait le commissaire. De tout ce que j'ai acheté à Berlin pour la Russie, je n'ai sauvé que quelques instruments. Le commissaire demande à les voir. Le forceps l'intéresse, mais voilà qu'il bondit sur le fer à cheval que j'ai ramassé sur la route. « Et cela » fait-il. « Est-ce un instrument ?»« Je désire que le plancher s'entr'ouvre sur moi pour cacher ma honte. » Il saisit le fer à cheval et le jette par la fenêtre. Je suis humilié, mortifié, et j'en veux au commissaire des sentiments qui amoindrissent mon âme. Évidemment, j'ai eu tort. Seule la démoralisation dans laquelle je me trouvais m'a fait donner dans cette superstition. Mais je n'aime pas avoir à répondre devant un maître d'une faiblesse qui, après tout, ne regarde que moi. Je revois le commandant. C'est l'homme qui m'a fait subir l'interrogatoire malveillant à la frontière. Il s'est humanisé et ses yeux noirs ne me font plus peur. Pour passer le temps, on joue à la commission extraordinaire. Je suis accusé, encore. Un Allemand fait contre moi un réquisitoire terrible, basé uniquement sur le tissu adipeux dont la nature m'a gratifié. Tout le monde est maigre, ici, excepté vous. Donc vous n'avez jamais manqué de rien. Donc vous êtes une bourgeoise. Naturellement, je suis condamnée à mort. On me dit de me mettre au mur. Le commandant m'administre 3 coups de revolver, qui n'est pas chargé. Je tombe foudroyée, nous éclatons de rire. Cela ne m'empêche pas de sentir vivement l'ennui. La bonne impression de sécurité du début, une fois effacée par l'accoutumance. Pas un journal français, pas un livre. Après des recherches minutieuses, on a fini par trouver dans un coin le livre rouge de la guerre russo-polonaise en français. Ce n'est guère attachant, et puis je l'ai bientôt lu. Impossible d'avoir une conversation intéressante. Personne ne parle français, et les pensionnaires de la mission sont des hommes d'action et non des intellectuels. Conspirateurs de toutes les nations de l'Europe, ils vont en Russie chercher un refuge contre la prison, quelques-uns contre la mort. Le commissaire m'a gratifié d'un faux nom. Il m'a baptisé Kaputchevitch. Quel nom baroque! Les pensionnaires en font un calembour macabre. Kaput, Kaputchevitch! On tuera Kaputchevitch. Un jour, il m'a fait appeler dans son cabinet et m'a dit: Vous êtes mère?
Quoi?
Oui, vous êtes mère. Il faut que vous le soyez, comprenez-vous?
Soit, je suis mère.
Les deux Italiens sont là. Voilà vos deux fils, Michael et Adolphe Kaputchevitch. Vous venez de... une ville allemande. Et vous allez en Russie avec vos enfants. C'est cela que vous direz aux policiers s'ils vous interrogent. Mais mes enfants ne savent pas le français et moi je ne sais pas l'italien. Et puis, il y a une question d'âge. Je suis vexée. Michael a 5 ans de moins que moi. J'aurais commencé jeune. Bilvesig tout cela. J'essaie de graver cette histoire dans ma mémoire. Je retiens bien le nom de mes fils, mais impossible de me rappeler d'où je viens. Cette ville allemande a un nom compliqué. Et puis, je crois que le régime des harengs-sorts que je subis est tout à fait préjudiciable à mes facultés d'acquisition intellectuelle. Les Russes ne connaissent pas les susceptibilités de notre pudeur. Je couche dans la même chambre que ces hommes. Il y a quelques femmes autres que moi. Je dois me lever la nuit et traverser toute la chambrée, et jamais je ne constate rien de choquant. Ces hommes, cependant, sont loin d'être insensibles. Il y a des flirts qui, même, causent des larmes. Je me couche tôt. Le sommeil est le seul remède à l'ennui que j'éprouve dans ce milieu qui n'est pas le mien, en dépit de l'opinion publique. Un soir, je suis réveillée en sursaut par des cris, des pleurs, un bruit de vaisselle brisée dans la chambre voisine. Je suis d'abord très effrayée. Dans mon ignorance de tout, je pense que, peut-être, il y a de grands événements. L'extéritorialité est violée et on arrête toute la mission. Je me blottis en chemise dans un placard. Voyant que tout se calme, je me risque hors de ma cachette. Rien de tragique. C'était la jeune femme, en butte à un flirt trop poussé. Pauvre petite humanité. On part demain pour la Russie. Un commissaire de Moscou vient me voir. « Vous allez être très mal, » me dit-il. « Pendant la première journée, on est forcé de vous faire voyager avec des émigrants et de l'armée rouge. Excusez-nous. Ensuite, vous serez très confortablement installé. Vous aurez le wagon diplomatique. » Grand merci. Au fond, je suis sceptique. On m'a promis tant de choses depuis Berlin que je ne crois plus guère aux paroles. Les Russes, semblables aux hommes de l'Orient, n'ont pas l'air de se douter qu'une promesse soit une chose sérieuse et qu'on n'en doit pas faire quand on n'est pas certain de les pouvoir tenir. On a alloué à la famille Kapouchevitch 800 marks pour se nourrir pendant le voyage. Et on nous les fait dépenser en provisions fantastiques. 40 livres de pain, 10 kilos de sel, etc. Il n'y a rien à Moscou, nous dit-on. Préparez-vous comme pour un voyage au pôle Nord. À Moscou, il y a, en réalité, de tout. C'est l'argent qui me manquera, alors que je ne saurai que faire de ce sel et de ce pain devenu dur comme de la pierre. Enfin, nous sommes partis. Nous voilà dans un affreux wagon à bestiaux peints en rouge, une 30aine de personnes. Le coin de droite est occupé par des familles d'émigrants. Ils emportent des sacs de linge qui répandent une odeur écœurante. Il y a des enfants tout petits. Dans le coin de gauche, le coin aristocratique, des camarades de la mission et moi. Au centre, des soldats rouges qui reviennent d'Allemagne. Un Polonais s'est caché derrière un tas de malles. Il est recherché, paraît-il. Il raconte qu'on l'a poursuivi à coups de revolver dans les rues de la ville. Il s'était réfugié à la mission. Le jour, la porte grande ouverte, je n'ai pas trop à souffrir, si ce n'est de l'inconfort. Assise sur ma valise, je regarde le paysage que je vois pour la première fois. Immense forêt de pins, village clairsemé avec petites maisons de bois à nombreuses fenêtres. Au soir, les émigrantes entonnent un chant plaintif qui est vraiment plein de charme dans le jour finissant. Il dit la douleur des pauvres vies d'esclaves foulées par les forts depuis l'origine du monde. Le wagon, je l'ai dit, manque des commodités les plus indispensables. Aux stations, il faut descendre et le plancher de la voiture est à 1 mètre du sol. Les soldats et les jeunes hommes sautent prestement. Ma maladresse m'attire des moqueries que je trouve méchantes. On m'appelle l'acrobatique. L'envie m'étouffe de dire à ces gens que si je n'ai pas leur souplesse, j'ai ce qu'ils n'ont jamais eu et n'auront jamais. Un jeune homme, sanglé dans un impeccable uniforme kaki, fait les fonctions de conducteur. Il s'occupe surtout des soldats auxquels il distribue du pain et des boîtes de conserve. Voilà la nuit. Ceux qui, venus légalement, ont des bagages, tirent des couvertures. Je n'ai rien et je dois m'étendre sur les paniers d'osier. On ne m'offre rien. Il faut même que je demande une tasse de thé lorsque j'ai soif. On n'a pas l'idée de me la proposer. J'ai abdiqué mon amour-propre parce que je veux vivre. Mais comme j'enrage d'être faible, d'être obligé de m'abaisser devant ces gens. Oh, Paris, mon Paris, ou du moins je ne demande rien à personne. Le commandant pourrait venir m'offrir un passeport pour la France. Je le prendrais avec joie. Je ne suis pas encore en Russie, et l'envie de l'avoir m'a déjà passé. Impossible de dormir dans l'air en puantie. J'ouvre un peu la lourde porte, et cela me vaut les récriminations à cause du froid. Je m'assois sur ma valise, juste en face de la fente, pour respirer directement le filet d'air qui arrive du dehors. Des insectes dégoûtants courent, je les sens sur mon corps. Comme personne ne me voit, je donne libre cours à ma faiblesse et pleure amèrement. Nous sommes dans la capitale d'un état tampon. Le wagon diplomatique promis n'est pas arrivé. La voiture bolchévique où nous logeons est parquée, seule, au fond de la gare, comme une pestiférée. Il nous est défendu de sortir en ville. Je vais au buffet me restaurer un peu et je regarde la liberté à travers les fenêtres qui donnent sur la place. Qu'ai-je fait pour voyager comme une prisonnière? Le soir, comme je rentre au wagon, un policier me met la main sur l'épaule. Je me dégage et cours vers la voiture en criant « Ich gehe nach Russland !» Je vais en Russie. « Ah ! Ich gehe nach Russland !» crient haineusement trois hommes qui passent. Je comprends de quelle ceinture de haine les heureux de ce monde ont entouré la nation, où, pour la première fois, le prolétariat a osé s'affranchir. Je raconte l'incident à un soldat allemand qui est dans l'armée rouge. Il frémit de colère. Il voudrait avaler tous les états tampons. Enfin, on nous raccroche à un train et nous repartons. Du moins, je le crois. C'était une illusion, car au matin, on est de nouveau dans la ville que nous avions quittée la veille au soir. Encore une halte qui dure toute la journée. Je suis brisée des nuits sans sommeil, et je pense encore une fois que je finirai par laisser ma vie dans ce voyage. Au soir, nous repartons, et après avoir roulé toute la nuit et toute la matinée, les locomotives, chauffées au bois, ne font guère plus de 30 kilomètres à l'heure. Nous nous trouvons à la frontière russe. Je comptais entonner l'international en pénétrant enfin sur le territoire béni du communisme. Mais tout mon enthousiasme est parti. Je suis trop malheureuse. Si encore je n'avais à endurer que des souffrances matérielles, ce ne serait rien. Je souffre d'être séparée de mon milieu, d'être avec des gens d'une culture inférieure qui ne voient guère en moi autre chose qu'une vieille femme et qui me traitent comme telle, avec, en moins, les égards que la civilisation donne à ceux qui ont le malheur d'avoir l'expérience qui ne s'acquiert qu'avec les années. D'ailleurs, l'enthousiasme n'anime personne. Même l'Italien au caractère insouciant qui chantait toute la journée à la mission se tait maintenant. Il n'y a pour se réjouir que la jeune Australienne. Je m'étais demandé comment l'idée d'aller servir la Russie avait pu germer dans une telle personne. Elle ne sait rien du communisme et ne sort, lorsqu'elle en parle, que des puérilités. Elle passe tout son temps à manger, car elle a une malle pleine de provisions. Et quand elle ne mange pas, elle flirte avec trois hommes, mes deux fils et son compagnon de voyage. À l'annonce qu'enfin on est en Russie, elle ouvre la lourde porte. C'est la nuit, mais cela ne fait rien. Elle veut voir quelque chose du pays tant désiré. Jolie fleur d'idéal, poussée toute seule au milieu des chardons vulgaires. Encore un arrêt, et on détache notre wagon qui reste seul. Pourquoi ? Mystère. On nous dit que nous ne partirons qu'après-demain. Sur les voies, il y a des trains qui stationnent, sans doute pour longtemps, car aux portes des wagons à bestiaux peints en rouge, sont apposés de petites échelles qui facilitent la montée et la descente. L'un des trains est rempli de soldats qui ont l'air de camper là. Des wagons sont organisés en salle à manger, d'autres en bureau. Au panneau, les portraits de Lénine et de Trotsky. Je vois une femme soldat, la première. Elle est vêtue comme ses camarades hommes, sauf qu'elle a une jupe. Dans sa main, elle porte un fusil. Je voudrais m'approcher d'elle, lui parler. Mais les avanies multiples que j'ai endurées dans ce terrible voyage m'ont affligée d'une misanthropie invincible. Et je me dis que cette femme n'est peut-être qu'une brute, elle aussi. Un autre train est plein de gens qui quittent la Russie. Ils campent là depuis longtemps, sans doute, car devant les wagons, ils ont installé des cuisines. Ils font cuire des pommes de terre, des ragoûts. Je crois d'abord que ce sont de pauvres gens qui fuient la Russie affamée. Mais non. À travers les portes ouvertes des wagons, on voit, au milieu d'un désordre indescriptible de chiffons et de meubles, de riches samovars qui brillent. Des femmes, par-dessus des robes haillonneuses, ont de magnifiques manteaux de fourrure. Ce sont des Juifs lituaniens qui retournent dans leur pays. Nous allons voir une petite ville, le conducteur, quelques camarades et moi. Elle est à 5 kilomètres. Nous traversons un beau pays de collines et de lacs. Volontiers, on villégiaturerait là. « Mais c'est sauvage !» me dit un Russe qui connaît le pays. « Vous ne trouverez rien du bien-être que donne la civilisation. Les champs sont cultivés, il me paraît y avoir beaucoup de blé. La ville est mal tenue. Les pavés pointus rendent la marche très difficile et il y a partout des trous. Nous entrons dans une boutique pour acheter à manger. Impossible. Des prix fantastiques pour des aliments sordides. Les habitants ne disent rien à mes camarades qui portent l'uniforme de l'armée rouge. Mais ils éclatent de rire en me voyant et ils me crient des insultes que je ne comprends pas. J'ai le malheur d'être femme. Et moi qui croyais que la femme était affranchie dans ce pays, qu'elle avait droit de citer au même titre que l'homme. Je vois qu'ici, il y a beaucoup à faire pour élever les gens. Je ne dis pas jusqu'au communisme, mais seulement jusqu'à la civilisation. Au centre de la ville, un marché minable. Tout de même, on y trouve du fil, des aiguilles, du savon. Le blocus s'est amendé. Les maisons sont en pierre, mais lézardées et abandonnées. Un désordre et une saleté dont nous n'avons pas idée. Au bord d'un lac magnifique est un jardin public. L'endroit serait ravissant si un peu de notre Europe passait par là. Notre conducteur découvre, ô bonheur, le restaurant soviétique. Pour une petite fortune, nous y mangeons une soupe à peu près passable, un riz semblable à de la colle, arrosé d'un verre de thé. Nous payons, parce que nous sommes étrangers, les ressortissants ne paient pas. Ils apportent leur carte de payok. Nous rentrons. La soirée s'annonce très froide déjà. J'ai l'idée d'aller chercher du bois mort dans la forêt voisine. Un camarade, avec un morceau de tôle et un vieux bout de tuyau, confectionne un poêle. Dans le vent, ce poêle tire effroyablement. Les flammes montent très haut, des étincelles sont projetées au loin. J'ai peur que le feu ne prenne à notre wagon. Quelles seraient pour nous les conséquences? Je n'ose pas y penser, dans ce pays où tout est militarisé. Enfin, le matin du 3e jour, j'entends les enfants des familles émigrantes crier joyeusement « Paravoz! Paravoz !» Locomotive. Une locomotive arrive, en effet. On forme un train auquel on accroche notre maison roulante. Nous voilà partis. Les villages défilent. Maisons de bois aux nombreuses petites fenêtres, quelques grandes gares, elles sont lamentables d'abandon, de désordre et de malpropreté. Sans doute, cela tient au pays plus qu'au régime, car j'ai déjà remarqué que la gare de Riga, capitale de la Lettonie, est très sommairement aménagée. Toute une population en haillons s'agite dans les gares. Les spéculants, surtout des enfants, crient les cigarettes, les pommes, pas de boisson. Toute gare a sa tchaïnaïa, désignée aux voyageurs par une théière peinte sur la porte. On donne là de l'eau bouillante dans laquelle on n'a qu'à jeter le thé, dont le voyageur précautionneux porte toujours un paquet dans sa poche. Encore un arrêt. Cette fois, il est sérieusement question de nous changer de wagon. Serait-ce enfin le wagon diplomatique? Non. Ce n'est qu'un wagon de 3e en très mauvais état. Et on a failli nous l'interdire parce que les papiers n'étaient pas prêts. Je manifeste l'intention d'y monter quand même, quitte à abandonner ma pauvre valise. On se récria contre une pareille indiscipline. Enfin, voilà les papiers. Quels papiers ? Mystère. Tout est mystérieux pour moi depuis que j'ai quitté X. Quand je demande un renseignement, on ne me répond pas autrement que par un regard de dédain qui s'adresse, je crois, à mon sexe. Nous sommes en règle. Allons, tant mieux, et je finis par croire que j'ai de la chance, car le train part. Encore 5 minutes, et nous restions là. Jusqu'à quand ? Tout délabré qu'il soit, ce wagon est superbe en comparaison de l'autre. Il est aménagé à la russe. Pas une place de perdu, tant dans la troisième dimension que dans les deux autres. Partout des planches, repliées le jour, et qui, relevées la nuit, deviennent des lits, durs à la vérité, mais quand même confortables, car on peut s'étendre. Il y a 2 planches dans la hauteur du wagon, ce qui fait, avec la banquette, 3 lits. Même disposition dans le couloir. En somme, 9 personnes peuvent dormir à l'aise dans un compartiment. Nous sommes dans le rapide. Demain, nous serons à Moscou. Enfin, voilà 6 semaines que j'ai quitté Paris. Une dispute éclate dans le compartiment. C'est l'Australienne et ses 3 flirts. L'ouvrier russe qui l'accompagne depuis l'Australie l'a traitée de personne immorale. Naturellement, elle se fâche. Elle crie, pleure, emplit le wagon de ses récriminations. Les Italiens prennent parti et tous ces révolutionnaires sont tellement absorbés par l'intéressante discussion qu'ils ne voient pas qu'on est à Moscou et qu'il faut descendre. Chapitre 2. Mon séjour à Moscou. Le commissaire de la mission de X m'avait annoncé qu'à Moscou, je serais logé à l'hôtel Luxe, en ma qualité de propagandiste. Un camarade qui faisait partie de notre troupe avait promis de m'y conduire. Mais X est loin. Le camarade me rit au nez lorsque je lui rappelle sa promesse. On nous laisse à la gare, les Italiens, une femme qui garde ses nombreuses malles, l'Australienne, les familles émigrantes et moi. Les autres qui connaissent Moscou sont partis. « Ils vont s'occuper de nous, » disent-ils, « et reviendront dans une demi-heure. » Nous sommes arrivés à 11 heures du matin. Les heures passent, personne. Il fait froid et il pleut, je pénètre dans le hall. Sur un mur, des emblèmes soviétiques, des portraits des chefs du gouvernement. Mais tout cela vieillit, jaunit, plein de poussière. Mon cœur, ulcéré par le mauvais voyage, m'y fait lire la lassitude, l'abandon du premier enthousiasme. Dans un coin, un piano. Une jeune fille qui porte au bras le brassard de la Croix-Rouge joue des valses lentes. Je lui demande de jouer l'Internationale. Elle a un sourire de mépris qui va à moi ou à la chanson, je ne sais pas. Peut-être à toutes les deux. J'ai froid. J'ai faim. Il y a bien une cuisine soviétique d'où je vois sortir des gens avec du pain et des saucisses appétissantes. Mais je n'y ai pas droit. Je n'ai droit qu'au buffet bourgeois. Il est au diapason de la classe. Sur le haut meuble luxueux, traînent dans des assiettes poussiéreuses quelques gâteaux défraîchis, sur lesquels se restaurent d'innombrables mouches. Mais je ne suis pas en situation de faire la difficile. Je mange un de ces gâteaux que j'arrose d'un abominable café au lait couleur de poussière délayée. J'en suis quitte pour quelques milliers de roubles. À 6 heures du soir, les camarades reviennent. Ils se sont occupés d'eux-mêmes et pas de nous. Ils nous disent que nos papiers ne sont pas prêts et que nous devons rester là. Combien de temps, on ne sait pas. Je suis furieuse. Certes, je ne demande l'aide de personne, mais au moins qu'on me laisse me débrouiller. Je ne veux pas coucher sur un banc de la gare. Après tout, je suis dans la capitale de la Russie et j'ai un peu d'argent. Je trouverai bien une chambre, que diable. Les Italiens paraissent consternés de mon indiscipline, mais je n'ai cure de leur opinion et je m'en vais.